Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Jean-Philippe Darche, t'es le médecin sportif des Chiefs de Kansas City. C'est quoi en ce moment les blessures les plus fréquentes que les joueurs de football ont en ce moment?
C'est les blessures au bas du corps, les chevilles, les genoux, les hamstrings. Les choses comme ça, c'est très, très commun.
Tu participes au Super Bowl 40. Tu deviens donc le premier Québécois et le deuxième Canadien à participer au Super Bowl.
Je pense que le monde ne voit pas, ben, que ce soit le Super Bowl, la Coupe Stanley, le NBA, le baseball, c'est, les gars, ils pleurent, ça, ils s'élèvent, c'est le gros moment de leur vie, mais tu ne vois pas souvent l'autre côté de la médaille que l'équipe a perdu. Probablement quand le match finit, c'est de suite, comme tout le monde se fait pousser dehors du terrain. Tu en as bien des gars de même qui jouent maintenant dans la NFL, que c'est des phénomènes physiques. Mm-hmm. C'était ça, puis en plus, l'éthique de travail, quelqu'un d'intelligent qui comprend la game, puis qui est chanceux, qui se ramasse à fort taux de blessure. C'est ces gars-là qui se ramassent au temps de la renommée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort. C'est un plaisir de vous recevoir. Cette semaine, je reçois un médecin. Pas n'importe quel médecin, c'est un médecin des Chiefs de Kansas City, Jean-Philippe Darche. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est très apprécié. J'ai l'intention, je commence tout le temps avec un intro pour introduire mes invités. Donc, voici ton intro. Jean-Philippe Darche, tu es le médecin sportif des Chiefs de Kansas City. Tu es originaire de Saint-Laurent. Tu as commencé ta carrière de football avec le Collège Notre-Dame. Assez rapidement, tu t'es reconnu comme étudiant athlète méritant. Collégial, tu as joué avec le Phoenix d'André Grasset, où tu as été nommé athlète de l'année et ton chandail numéro 44 a été retiré. À l'université, tu rejoins les Redmen de l'Université de McGill, où tu as été secondaire étoile pendant 5 saisons. Tu finis ta carrière universitaire en tant que meilleur plaqueur de l'histoire du programme. En 1998, tu remportes le prix Ross Jackson, qui est décerné aux joueurs de football universitaire canadien, qui incarne mieux l'équilibre entre sport, études et engagement communautaire. En 1999, tu es le premier linebacker à être sélectionné au draft de la CFL par les Argonauts de Toronto en 3e round. 2000, tu signes comme long snapper avec les Seahawks de Seattle. 2006, tu participes au Super Bowl 40. Tu deviens donc le premier Québécois et le deuxième Canadien à participer au Super Bowl. 2008, c'est ton histoire avec les Chiefs qui commence, où est-ce que tu signes en tant que joueur pour une saison. En 2009, tu décides de prendre ta retraite du football et de continuer tes études de médecin à Kansas City. Aujourd'hui, tu es médecin sportif pour les Chiefs et les Royals de Kansas City. Tu es 3 fois champion du Super Bowl et maintenant président honoraire de l'équipe football universitaire de McGill. JP, bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de te recevoir.
Salut William, merci. T'es gentil de faire une belle introduction comme ça.
Ah, ça me fait plaisir. Écoute, je pense que ça méritait d'être bien dit. En commençant, président honoraire de l'Université McGill, je pense que c'est un beau rôle à avoir. Tu peux-tu me donner, en fait, comment c'est arrivé l'histoire derrière ça, pourquoi tu es devenu le président honoraire de l'équipe?
Évidemment, comme tu as mentionné, j'ai passé 5 années à McGill dans les années 90, ça fait longtemps maintenant, mais je veux dire, c'est tout le temps quelque chose qui a été bien important pour moi, comme le programme de football de McGill, c'est une place spéciale dans mon cœur, puis je pense que tout le monde qui suit le football au Québec sait que dans les dernières années, ça n'a pas toujours été... le programme avec le plus de succès, hein, ça l'a pris une drop un peu à travers les années. Puis c'était comme en tant qu'ancien joueur qui a beaucoup de fierté dans son équipe, son école, c'était pas très... c'était pas le fun à voir, tu sais. Puis quand les équipes, les programmes comme ça ont moins de succès, ce que tu vois, c'est que c'est partout pareil, c'est que l'intérêt des anciens, puis l'engouement là, pour les gens de s'impliquer, puis de faire des donations, puis juste d'être dans le tour du programme, ça va moins bien. Puis depuis que Alex Surprenant est engagé comme coach, il a fait un changement incroyable là, sur l'engouement que les gens ont à McGill. Il a amené de l'énergie, il a amené un plan, il a amené de l'enthousiasme. Et puis littéralement, après une couple de mois qu'il s'est fait engager, là, j'ai vu la différence incroyable. Puis même on a... Vincent Gagné, c'est son nom, un Québécois, un ancien joueur de McGill, qui était encore plus vieux que moi. Il n'aime pas ça que je dis ça, mais Vincent s'était impliqué en tant que comme le président des anciens joueurs de football de McGill. Puis les deux ensemble m'ont approché. Ils m'ont dit, écoute, serais-tu intéressé à être le président honoraire du programme de football? Puis ça m'a fait plus que ça. Ça m'a pris à peu près 2 secondes à y penser. Puis j'ai tout de suite dit oui. Puis je suis bien excité là, où le programme s'en va, de toute de l'énergie. C'est un changement incroyable des dernières années. Fait que j'ai vraiment espoir là, que le programme soit sur la bonne voie.
Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu fais partie, mettons, de certaines solutions? Est-ce que tu es capable d'amener, en tant que président, certaines ressources que, ben, McGill n'ont pas présentement, mais que peut-être que tu peux leur amener?
Mais je pense que dans mon rôle, principalement, c'est d'essayer d'aider, comme de trouver comme l'engouement, là, tu sais, de connecter avec les anciens joueurs, surtout ceux que moi je connais, tu sais, de mon âge un peu. Puis déjà, on a plusieurs gars de mon âge il y en a plusieurs qui habitent encore dans la région de Montréal, puis qui sont retrouvés un intérêt là, à appuyer le programme. Puis c'est plus comme, je veux dire, Alex puis Vincent, les deux, ils ont vraiment des bons plans il y a une campagne de financement qui va commencer bientôt là, pour essayer de. Il y a certaines choses qu'il faut que soient améliorées dans le programme, comme la chambre des joueurs, des choses comme ça qu'on est dû là pour. Ça fait 30 ans. Moi, quand j'ai commencé à McGill, c'était flambe en neuf, le locker room, là, la partie là, on change. Puis là, ça fait 30 ans. Fait que ça paraît que ça fait 30 ans. Fait que c'est le temps de l'améliorer un peu. Puis ça coûte des sous, ça. Puis c'est
Exact.
pas évident de trouver les fonds pour ça. Puis ça, c'est un des projets que je sais qui a commencé.
Maintenant, ton histoire. J'aimerais que tu nous introduises. J'aime ça partir de tout ça pour donner vraiment un bon background aux invités. De où ça a parti? Pourquoi tu as commencé le football? Est-ce que tu avais un background de football? Je sais que dans ta famille, c'est une famille de grands sportifs. Ton frère a joué dans la NHL, tu as joué dans la NFL, mais tu sais, je parle, on part tout de quelque part. Où est-ce que toi, de où tu as parti?
Mais moi, j'étais surtout à l'âge que j'ai. Je veux dire, à l'époque, tout le monde. Le football, c'était populaire, mais pas autant qu'aujourd'hui. Tous les jeunes jouaient au hockey. Dans ce temps-là, j'ai joué au hockey. Comme mon frère, on jouait au hockey jeune. Puis, quand je suis arrivé au secondaire, au Collège Notre-Dame, le gros sport là-bas, c'était le football. Puis c'est comme la majorité des jeunes voulaient jouer au football. Tu sais, c'était comme ça le sport qui était populaire puis que tout le monde voulait faire. Puis à l'époque, on jouait pas en secondaire 1 ou 2, on commençait juste en secondaire 4. Fait que tu avais 2 ans à regarder les plus
OK,
vieux, puis
ouais.
après ça, secondaire 3, ils commençaient à sélectionner. Puis il n'y avait pas d'équipe de secondaire 1 et 2 à l'époque. Donc, c'était un peu comme tu avais hâte d'arriver à l'âge que tu pouvais jouer. Puis j'avais jamais joué au football. Je savais même pas comment mettre l'équipement, rien, comme la majorité des jeunes dans le temps. Puis dès qu'on a commencé, c'est quelque chose qui a cliqué pour moi. J'ai comme tombé en amour avec le sport. Puis j'ai décidé juste de continuer. À chaque fois, je veux dire, j'avais pas aucun rêve de me dire je vais me rendre au niveau professionnel ou rien comme ça. C'est vraiment jouer au secondaire. Puis vers la fin du secondaire, je me réalisais, ah, je suis quand même pas payé, peut-être que je vais aller jouer au cégep. Puis au cégep, c'est arrivé la même chose. Puis l'université, pareil, tu continues à jouer, tu fais le mieux que tu peux. Puis à la fin, quand tu arrives à la fin, tu réalises que ah, peut-être qu'il y a un intérêt de jouer au prochain niveau.
Quand est venu le moment pour te dire, OK, ben écoute, je pourrais peut-être jouer au prochain niveau? Il est arrivé quand, ce moment-là? Est-ce que tu te rappelles d'un moment, tu sais, souvent on dit t'es sur ton X, là, mais tu te rappelles-tu de ce moment-là?
Tu parles comme à l'université d'aller jouer professionnel
Ouais.
ou. Ouais, ça, c'est. Honnêtement, j'étais ma dernière année à McGill. Notre coach Charlie Bailey, le coach, il faisait le cas qui me disait, je reçois bien les appels des équipes de la Ligue canadienne. J'étais surpris. J'avais pas quelque chose avec quoi j'avais pensé. Puis. C'est ça, puis il a commencé à me parler de ça, puis là j'ai commencé à penser peut-être oh, peut-être je vais regarder ça, mais à l'époque j'avais fait mon bac en 3 ans, puis après ça j'étais en médecine déjà, j'avais fait deux des 4 années du programme de médecine. Fait qu'à cette époque-là, dire OK, prends un break pour aller jouer au football professionnel, c'est quand même, j'étais loin d'être sûr de le faire.
C'est un gros step.
C'est un gros step, tu sais, ça vaut-tu. Parce que si tu vas jouer, tu vas au camp d'entraînement, en réalité, il faut que tu sacrifies une année parce que tu manques assez de temps qu'il faut que tu t'attends à recommencer l'année d'après. Puis j'y ai pensé, j'étais vraiment pas sûr au début, puis j'ai demandé l'opinion de bien des gens, puis la réponse que j'ai entendue plus souvent, c'était tu vas le regretter si tu n'essayes pas. Je veux dire, une année de plus ou de moins, quand tu vas avoir 50 ans, tu vas trouver ça drôle. T'sais, c'est même pas. C'est pas significatif. T'as dit, mais quand tu es là, tu as 21, 22 ans, peu importe l'âge que j'avais, ça paraît comme un big deal. Hein, manquer un an, puis attendre un an, qu'est-ce que je vais faire pendant un an si je joue pas, je suis pas à l'école, tout. Puis j'ai juste décidé, je vais l'essayer, je vais y aller. Puis même à l'époque, les Argonauts m'avaient repêché, puis j'étais même pas sûr que j'étais pour jouer. J'avais dit, je sais pas si je vais.
Ah ouais, si tu leur avais dit ça carrément?
Oui, bien, les équipes le savaient, tu sais, c'était. Ben, j'avais mon coach, je sais pas, là, je suis loin d'être certain de vouloir aller jouer avec cause de la situation que j'ai été. Puis, je le regrette pas. J'ai eu vraiment comme une super belle année. Quand l'année que j'ai joué avec les Argonauts, ça a été vraiment le fun. Puis, puis de là, même, ça a été un peu le même concept. Pendant la saison, c'était le coach des Argonauts, Jim Barker, m'avait dit, écoute, ton long snapping, là, il dit j'ai coaché partout à travers, whatever, puis j'ai jamais vu quelqu'un, t'es aussi bon que n'importe qui a, puis pas juste dans le CFL, je parle de la NFL, puis j'étais comme, ça m'avait surpris pas mal, hein, fait que, mais même à ça, j'ai pas pensé plus que ça, puis... En réalité, la fin de la saison, mon dernier match avec les Argonauts, j'ai eu une fracture du péroné, une fracture de la jambe, puis dans un match de playoff, le premier match de playoff. Puis là, j'étais vraiment certain que c'était fini. Parce que mon but, mon plan tout le long, c'est jouer un an, puis that's it. Puis là, je pensais encore plus, OK, c'est fini. Puis j'ai peut-être 6 semaines plus tard, j'étais encore pas complètement... récupérer de ma blessure, puis j'avais reçu un appel que hey, les Seahawks veulent t'amener faire un workout. Puis là, c'était un autre, je suis comme, hein? Là, j'ai dit, OK, je peux y aller faire le workout, mais 10 heures, je peux pas courir, des affaires comme ça. Je me remets encore de ma blessure, je suis pas encore à 100%. Puis ils m'ont dit, ah, c'est correct, je veux juste te voir snapper. Fait que je suis allé, puis de Montréal à Seattle, c'est 6 heures d'avion. Je me suis rendu là-bas, puis c'est loin, c'est complètement
Vancouver, en réalité.
Puis ensuite, j'étais allé là, puis j'ai snappé pendant peut-être 20 minutes. Il y avait 5-6 autres gars, puis c'était tous des. J'étais de loin le plus petit, c'était tous des gars qui venaient des gros programmes aux États-Unis. Puis je me disais, oh, je sais pas ce que je fais ici, mais le workout a commencé, puis. À peu près après 5-10 minutes, le coach d'unité spéciale, il était juste à côté de moi, il me parlait juste à moi. Tu sais, j'avais réalisé tout de suite. Donc, ça veut dire que ça va. Puis par le temps que j'arrive, ils me ramènent à l'aéroport après le workout. Puis je n'étais même pas dans l'avion, j'avais un appel de mon agent. Là, et là ils veulent te signer. Fait que là.
Aïe!
J'ai encore la même situation. Tu sais, signer, c'est bien beau, mais il n'y a aucune garantie, aucun bonnet de signature, aucun rien. C'est un contrat qui c'est juste sur papier. Hein. Tu ne fais pas l'équipe, tu n'as pas de scène. Fait que, puis, c'est un autre, ça aurait été une autre année encore que je prenne de break. Fait que, pour moi, c'était, j'ai repassé le même processus. Il fallait que j'aille demander des extensions de mon année sabbatique avec la faculté de médecine à McGill. Puis, ils m'ont supporté très bien. Mais c'était quand même un processus, puis j'ai décidé de le faire, même concept, là, quand on va l'essayer, puis ça finit par durer 10 ans, fait que c'est
ça valait... ouais, exact, ça a valu la peine. Est-ce que, question de même qui me pop en tête, est-ce que tu as eu un impact sur, quand Laurent Dionnet-Tardif a voulu aller jouer dans la NFL, puis il y avait en même temps, tu sais, ses études et la NFL, est-ce que toi, tu l'as-tu conseillé là-dedans, est-ce que tu as parlé de ce que toi, t'avais vécu, puis...
Ben, je pense pas, je sais pas si j'ai eu un impact, mais je veux dire, Laurent, je l'ai rencontré quand il était encore à McGill, quand il était pour aller pour le repêchage, il était un peu dans la même situation. On avait un ami en commun, Mathieu Kivigé, avec qui j'ai joué à McGill, puis qui était entraîneur à McGill dans ce temps-là, c'est le coach à Laurent. Puis on nous avait connectés, on était allé manger, on était allé dîner une fois l'été quand j'étais à Montréal, puis... on avait jasé de ça. Tu sais, Laurent, c'est un gars bien intelligent, puis qui pose bien les questions, puis qui pense à tout. Puis je me rappelle, j'avais été bien impressionné par son approche. Puis lui, c'est, je veux dire, il a eu une maudite de belle carrière. Il a eu ça a vraiment bien marché pour lui. Fait que, puis lui, ce qui a été, lui, ce qu'il a eu, c'est qu'il était une année en avant de moi quand il était à sa troisième année de médecine au lieu de sa deuxième année.
Je comprends.
Commencer, tu sais, ceux qui rentrent directement du cégep en médecine, donc il était déjà plus loin. Fait que c'est plus, lui, il a été capable de finir sa médecine, tu sais, dans saison morte, tandis que moi, je me restais trop. J'avais pas eu cette option-là. Mais anyway, fait que lui, je suis bien, bien, bien content pour lui, là. On a quand même passé assez de temps ensemble ici, là, quand il est venu. Ça a donné toutes les places, il aurait pu se faire repêcher, c'est à Kansas City, fait que ça avait bien donné.
Dans une entrevue, j'ai vu que ben, tu as fait partie du Super Bowl 40. Puis dans une entrevue, j'ai vu que tu avais dit que quand tu le vis en tant que joueur, parce que maintenant tu l'as joué en tant que joueur et comme partie du staff, tu dis que ben, c'est très différent d'y aller comme joueur. Quand tu joues, c'est tellement un gros moment, tu as de la pression, tu veux aller, tu visualises tellement la victoire. Quand tu perds, c'est vrai que c'est difficile parce que les gagnants, ils célèbrent. Mais l'équipe perdante se font pousser dans la chambre. Personne ne veut voir le monde qui a perdu. Hyper intéressant. C'est quoi les backstage? Qu'est-ce que nous, on voit pas de ce Super Bowl? Ce fameux Super Bowl?
Je pense que le monde voit pas, ben, que ce soit le Super Bowl, la Coupe Stanley, le NBA, le baseball, c'est quand les gens, là, ce qu'ils veulent voir à TV, c'est la célébration. Hein? C'est le fun, le monde aime ça regarder ça. Les gars, c'est là, tu vois l'équipe qui a gagné, tu les vois dans la chambre, tu vois tout les gars, ils pleurent, ça, ils s'élèvent, c'est le gros moment de leur vie, mais tu vois pas souvent l'autre côté de la médaille que l'équipe qui a perdu. Probablement quand le match finit, c'est tout de suite, comme tout le monde se fait pousser dehors du terrain. Fait que l'équipe qui a perdu, ils décollent, ils partent dans la chambre, puis c'est extrêmement tranquille, puis
Ah, c'est sûr.
c'est décevant. Tu sais, c'est parce que tout le monde s'imagine, tout le monde visualise partir de là avec le championnat. Puis, tu sais, dans les sports professionnels, perdre, ça fait mal, mais c'est pas le même. Comment je pourrais dire, là, ça va peut-être sonner mal, là, mais comme un joueur, quand tu joues, c'est bien important comment toi, personnellement, tu fais. L'équipe, c'est bien important, mais c'est numéro 2. On va être honnête, là, je veux dire, il n'y a pas un joueur qui va dire le contraire de ça parce que c'est un job, c'est une affaire professionnelle. Puis si tu es juste te dire, ah, moi, je suis juste content que l'équipe gagne ou perde, mais toi, tu n'as pas bien fait, mais tu ne seras plus là pour apprécier les victoires. Hein. Fait que, tu sais, tu veux gagner, c'est sûr. C'est pas aussi comme quand tu étais au secondaire ou à l'université, c'est ça qui est le plus important, puis c'est toi, puis tes chums, puis tout ça. Au niveau professionnel, c'est plus une business, hein? Mais une fois que tu arrives dans les playoffs, tu arrives dans les séries, là, ça n'existe plus. Ça, tu te sens pareil comme quand tu étais au secondaire avec tes chums. Ça revient à ça. T'sais? C'est vraiment juste gagner puis perdre qui compte. Fait que c'est pour ça que ça fait encore plus mal perdre rendu à ce niveau-là.
Tu te rappelles-tu d'une histoire qui t'a marqué de cette fameuse année où est-ce que vous avez travaillé pour vous rendre au Super Bowl?
Oui, mais je me rappelle, puis écoute, hey, on est rendu 2005, ça fait un bout de temps, mais c'est qu'on avait, je me rappelle, on avait commencé, si je me trompe pas, on était 2 et 2, après ça, on a gagné, on n'a pas perdu un match jusqu'au, donc c'était quoi, 12, 11 victoires de suite, c'est rare dans la NFL, jusqu'à temps le dernier match quand on a fait jouer les backups, tu sais, parce qu'il y avait plus de, je pense qu'on avait perdu ce match-là, puis les playoffs, ça avait été smooth, tu sais, on avait gagné c'était rendu, puis. Je pensais, j'étais 100% certain qu'on était pour gagner. Non, mais tous les gars, j'ai encore plusieurs gars avec qui j'ai joué à cette époque-là, qu'on est chum encore. Puis
Ah, c'est cool.
quand on en parle, tu sais, là, justement, là, en fin de semaine, je m'en vais avec deux de mes bons chums là, qui étaient à qui j'ai joué. Là, on s'en va en vacances avec nos femmes là, pour une semaine. Fait que je suis sûr qu'on va raconter des histoires de ce Super Bowl-là parce qu'il n'y en a pas un des trois qui en ont gagné un Super Bowl comme joueur.
Ah, non, c'est. Sont-ils encore impliqués dans le football ou ils ont vraiment pris leur retraite? Tes amis?
Ces gars-là ne sont plus dans le football,
Dans le
mais
football, tout.
non, ouais, la majorité, il y en a une couple de gars là, tu sais, qui sont encore qui vont coacher. De temps en temps, on va jouer, puis tu arrives à une équipe, puis un gars avec qui j'ai joué qui je sais pas, coach des running backs pour l'autre équipe ou des choses comme ça. Ça arrive. Ça, c'est tout le temps le fun. Il y a une couple de gars qui sont des scouts. C'est des, ou des, c'est, on a, un de mes bons chums avec qui j'ai joué, il s'appelle Tim Terry. C'est un des assistants GM avec les Chiefs. Fait que ça, il est arrivé ici. On est devenu ben chum. Fait que ça, c'est, le monde est petit dans ce monde-là. Hein. Tu revois du monde à travers. D'une équipe à l'autre, puis des anciens joueurs qui là, sont rendus, ça fait longtemps qu'ils coachent, on est rendu vieux.
Exact. Mettons dans la NFL, c'est quoi ça veut dire? C'est quoi ta job, en fait, quand t'es, mettons, si t'avais à l'expliquer à quelqu'un qui comprend vraiment pas c'est quoi? C'est quoi ton cadre, ta job?
Ouais, c'est, je pense qu'il y a une fois, des fois, le monde, ils ont l'impression que les médecins d'une équipe, pareil, comme que ce soit pour les Canadiens de Montréal ou n'importe quelle équipe, que les médecins, c'est ça qu'ils font à temps plein, mais ce n'est définitivement pas. Tous les médecins de peu importe quelle équipe, ils ont une pratique normale, ils pratiquent comme un médecin, comme n'importe quel médecin. Puis c'est comme un extra à ta tâche en réalité. C'est que il y a des fois qu'il faut être là, par exemple, au camp d'entraînement. Nous autres, il faut qu'on ait tout le temps un médecin là à chaque pratique, juste pendant le camp d'entraînement, pendant 4-5 semaines. Donc on s'alterne ça, puis tu vas passer toute la journée au camp. À part ça, c'est des choses, ça peut être pendant la saison, il faut être au match. Tu sais, on est une couple de médecins, donc on peut alterner, je ne fais pas tous les matchs. Puis après ça, c'est des choses qui arrivent dans la semaine. La partie qui demande le plus de temps, ça va être, je veux dire, je peux être dans ma clinique un mardi matin, puis tout d'un coup, je me fais appeler, puis il y a un joueur qui a besoin d'être vu, ou un coach, ou la femme d'un coach, ou l'enfant d'un coach. Ça peut être n'importe quoi. Puis, fait qu'on fait beaucoup de. Ça prend quand même pas mal d'heures par semaine. Fait que c'est tout extra. C'est tout en extra de ton. Nous, on est chanceux. La manière que ça marche ici, c'est que le système, le gros centre hospitalier, l'Université de Kansas, pour laquelle je travaille, on a une clinique qui est située à l'intérieur. Du stade des Chiefs. Fait que c'est une clinique normale que les gens peuvent venir, mais puis on a une porte en arrière qui se rend en 20 poches rendues dans la chambre. Ça rend ça pas mal simple. Fait que les gars, ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent venir comme ça. Moi, je peux me rendre là-bas. Fait que c'est pas mal ça. Ça prend pas mal de temps, mais c'est une job qui est. Moi, j'aime être là, j'aime m'occuper des gars, puis être autour de ça. C'est pas aussi glamorous que le monde pense que c'est. C'est pas juste voyager, puis c'est. T'as bien du grind là, à tous les jours, puis les longues journées au camp d'entraînement, être là, puis le trois quarts du temps, t'es assis, puis tu fais rien, tu sais. mais c'est. Non, c'est quelque chose que je suis bien content de faire, puis je planifie faire ça encore pour. Ben, des années.
Nice. Est-ce que les joueurs ont la priorité? Tu sais, mettons, tu disais que tu étais à 20 pas ou whatever. Mettons qu'il y a un gars qui faut absolument qu'il te voit. Est-ce qu'il va prendre le spot d'une personne qui est déjà là? Ou...
Ben, ce qu'on fait, c'est que comme mettons, quand je vois les joueurs, c'est pas comme un c'est pas comme officiel pareil. Tu sais, comme quelqu'un, un patient normal vient, puis tu es à un rendez-vous, puis tu viens aux autres, on les squeeze in, tu sais, c'est... On a une salle pour eux autres, fait qu'entre deux patients, je vais aller voir. Puis souvent, ça va être le soir ou la fin de semaine, ça peut être comme en dehors des heures de bureau normales. On trouve tout le temps pour les voir. C'est ça l'expectation, tu sais, ils s'attendent à ça que tu sois disponible. C'est dans le monde de la médecine sportive, il faut que... Encore plus important d'être compétent, il faut que tu sois disponible.
Exact. Mais écoute, en parlant de disponible, je pense que pour être athlète, la plus grande qualité, c'est d'être disponible aussi. Parce que un de mes bons chums, Anthony Gossin, j'ai eu sur le podcast aussi, joue pour les Red Black, il est running back là-bas, puis il me disait, tu sais, la plus grande qualité d'un joueur de football qui n'est pas assez dit professionnel, c'est d'être disponible. En parlant de ça, c'est quoi en ce moment, qu'est-ce que toi tu vois, les blessures les plus fréquentes que les joueurs de football ont en ce moment?
Les joueurs, il y a une grande, grande variété de choses. Les choses communes, là, vraiment, là, que tu espères que la recherche, puis il y en a bien de la recherche qui se passe. Je suis dans un comité là, pour l'association des joueurs qui regarde toutes les données, puis toutes les différentes choses qu'on pourrait changer, c'est les blessures au bas du corps, les chevilles, les genoux, puis les hamstrings, tu sais, les choses comme ça, c'est très, très commun. Puis il y a de la recherche, il y a bien de l'argent qui est dépensé, voir que, mettons, c'est la surface de jeu, est-ce que ça glisse trop, tu peux te blesser, ou c'est trop collant, fait que ça cause des problèmes. Les genres de souliers, les genres de crampons, les genres de comment dur la semelle elle est. Beaucoup de changements qui ont été faits sur l'acclimatation, quand les gars arrivent au camp. À l'époque, là, je me rappelle quand je jouais, c'était tout de suite première journée, deux pratiques avec des pads, puis c'est pas de. Tu n'avais pas d'adaptation. Aujourd'hui, s'il y a vraiment un processus qu'il faut que tu ailles au moins 3 journées avec pas d'épaulettes, pas de contact, puis pas plus long qu'un certain nombre de temps, puis tu augmentes le load pour éviter les blessures. Fait que c'est, il y a bien. Je pense que la recherche peut faire. Ça peut aider, tout ça, mais bottom line, il faut que tu arrives en shape au camp d'entraînement. Il faut que tu ailles toi-même là, avant d'arriver. Puis une grosse partie, c'est la chance. T'sais. Puis il y a des gars qui font toutes les bonnes choses, sont en shape, ils s'entraînent, ils mangent bien, ils font tout, mais ils se blessent tout le temps. Tu te demandes pourquoi. C'est pareil comme quand tu regardes des Canadiens, puis il y a des gars qui sont toujours blessés. C'est pas parce que souvent, c'est juste de la malchance. Ils sont bâtis d'une manière qu'ils se blessent. Puis c'est bien plate quand tu es un joueur comme ça.
C'est vrai qu'il y a le côté, comment tu appelles ça, pas biologique, mais le côté de ta nature humaine, genre, tu sais, c'est ça, si ton corps est fait d'une façon, tu sais, comme mettons GSP, que lui, son corps, il se coupait facilement, genre. Fait que quand il se battait, il avait tout le temps l'air d'être tout le temps défoncé, mais en réalité, il était correct, juste que son corps était fait de cette façon-là. Mais c'était pas intéressant. Est-ce que tu aurais une façon, tu sais, avec avec l'expérience que tu as maintenant, que tu as vu plusieurs top 1% des athlètes s'entraîner, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour, mettons, optimiser la récupération des athlètes pour après des entraînements, après des matchs?
Bien, je pense que ça revient à quelque chose, les basics, là, les affaires bien simples, là, c'est vraiment là, comme l'importance du sommeil, la nutrition, puis de vraiment comme s'entraîner trop, c'est pas mieux que pas assez. Tu sais, il faut être quelque chose, faut être un coach là, qui sait comment, un strength coach, un entraîneur, là, un trainer qui est capable de savoir qu'est-ce que tu as besoin. Si tu as des déficiences en quelque part, des faiblesses, que ce soit dans les hanches ou les cuisses, il faut tout régler ça avant de vraiment être capable de se pousser. Puis, c'est, je veux dire, le meilleur effort que tu peux avoir, puis faire toutes les choses, tu mets les chances de ton côté, puis quand tu regardes les joueurs, que je veux dire, tu regardes, il y a des joueurs qui j'ai joué ou j'ai vu qui sont au temple de la renommée, tu sais, vraiment des élites, ça, je suis convaincu que 90%, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ils ont été, c'est God-given, comme on dit, tu sais, c'est des habiletés naturelles, tu sais, il y a bien de ces gars-là, c'est des gars différents, c'est des phénomènes, puis écoute, t'en as bien des gars de même qui jouent, mettons, dans la NFL, que c'est des phénomènes physiques. Si t'as ça, puis en plus, t'as l'éthique de travail, quelqu'un d'intelligent qui comprend la game, puis qui est chanceux, qui se ramasse à part taux de blessure, c'est ces gars-là qui se ramassent au temple de la renommée. Mais il n'y a pas personne, je pense, au temple de la renommée qui est juste un talent moyen, qui a travaillé pour se rendre là. C'est juste, c'est des personnes comme physiquement qui sont des spécimens.
C'est intéressant que tu me dises ça. Ça veut dire que tu peux te préparer comme tu veux. Premièrement, il faut vraiment que tu aies le talent qui vienne avec first. Mais sinon, si mettons j'avais à résumer, c'est prends le temps d'étudier ton sommeil, prends le temps d'étudier ta nutrition, puis essayer de trouver un bon mix dans tes entraînements pour te permettre de rester en forme pour les saisons.
Exactement. Puis c'est ça ce que je dis, l'habileté naturelle, c'est une grosse partie. Puis ça, c'est toujours vrai, sauf que je trouve que c'est pas aussi important, puis c'est pas aussi vrai pour s'il y a des jeunes qui jouent au football, au secondaire, ou même à l'université. Je trouve à ce niveau-là, l'éthique de travail, puis être entraîné, puis être coachable, puis tout ça, c'est très important. Tu peux avoir des joueurs, là, surtout au secondaire, qui sont pas si talentueux que ça, qui sont moins talentueux que la majorité, puis qui sont des excellents joueurs parce que à cause de toutes ces choses-là. C'est plus quand tu arrives au niveau
dans ces niveaux professionnels-là.
Ouais. C'est ça, exactement.
Est-ce que, ben, pour parler justement de ça, as-tu des conseils pour nos athlètes en finissant que tu penses qu'il pourrait être bon à dire pour les prochaines générations d'athlètes qui peut-être aspirent un jour à vouloir aller jouer à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là?
Moi, je dirais à tout le monde, vis dans le moment. Comme, mettons, tu es un jeune qui joue au football au secondaire. Dévoue-toi à être le meilleur que tu peux être en ce moment. Fais toutes les choses que tu peux faire. Pense pas tout de suite, mettons, tu es en secondaire 4, puis tu dis ça, je vais aller au cégep, puis je veux faire ci, je veux faire ça. Focus sur qu'est-ce que tu fais en ce moment. Tu fais le mieux que tu peux. Il faut toujours que tu sois coachable. Les coachs, ils savent que quand tu as des jeunes qui disent, tu te fais coacher, puis tu fais juste dire, oh, ouais, je le sais. Des choses comme ça, les coachs n'aiment pas ça. Faut que tu sois coachable, faut que tu t'entraînes, faut que tu sois un bon coéquipier, un gars d'équipe. Puis, si tu as l'opportunité de te rendre au prochain niveau, si tu es assez bon, ça va arriver. Ou ça, c'est certain. Puis, continuer, je trouve que avoir ton but, mettons, tu joues un jeune au secondaire qui se dit, moi, mon but, là, c'est je vais jouer dans mon plan, c'est je vais jouer dans les pros, peu importe le sport. Je regarde ça plus, ça devrait être un rêve, pas un plan. Ça, c'est pas un plan. Ça, c'est si ça arrive, excellent, tant mieux pour toi. Tu fais tout pour que tu aies l'opportunité de le faire, mais si c'est ça ton plan, tu as choisi un plan que les chances de le faire sont très, très minces. Fait que trouve-toi un plan, peu importe la carrière que tu veux avoir, puis ça, c'est un rêve que tu peux continuer à poursuivre tout le temps. Puis si tu es assez bon que ça arrive, les chances sont que tu vas te faire découvrir et tu auras l'opportunité.
Merci, JP. Plus court aujourd'hui l'entrevue, mais sais-tu quoi? Ça va peut-être nous donner une raison de, un peu plus tard, faire une partie 2. Si tu es ouvert à ça, je serais honoré de te recevoir une autre fois pour aller encore plus en détail. Mettons que c'était une introduction, mais j'ai beaucoup apprécié, même si on a, c'était court dans l'entrevue, j'ai beaucoup aimé JP. Vraiment très gentil, sérieusement.
Ça m'a fait vraiment plaisir, William, puis n'importe quand. J'aimerais ça de jaser avec toi n'importe quand, puis félicitations pour ton podcast. J'espère que tout va continuer à bien aller pour toi aussi.
Merci, j'apprécie beaucoup.